Bien, bonjour. Je suis professeure de SVT au lycée Robert Doisneau et depuis 4 ans, nous avons fait un constat avec mon collègue M. Dramisino, qui est professeur de philosophie, qui est le suivant. C'est que donc je traitais le programme concernant la théorie de l'évolution en terminale scientifique, qui est donc au bac. Les élèves ne disaient rien et prenaient leur cours avec de très bonnes notes. Et quand ils allaient en cours de philosophie, même les meilleurs élèves de ma promotion contester cette théorie en disant « Monsieur, quand même, vous y croyez pas, ce truc ?» Bon, mon collègue m'en a parlé en salle des profs, douche froide. Et donc là, on a commencé à réfléchir à ce problème. Donc, qu'est-ce que contestent les élèves? Ils contestent plus particulièrement l'évolution de l'homme, pas l'évolution générale, mais l'évolution de l'homme, au profit d'un discours religieux, d'un positionnement qui leur est donc dicté par un certain dogmatisme religieux, dans lequel l'homme serait créé à l'image de Dieu, et donc par conséquent, il ne peut pas être le produit d'une évolution biologique. Alors, quelles sont les conséquences de cette position-là? C'est que, premièrement, les élèves nous disent « la théorie de l'évolution concernant l'homme, j'y crois pas ». Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, encore plus grave, qu'ils nous disent, c'est que, de toute façon, cette théorie, elle est fausse. Donc, face à ce problème-là, on a voulu évaluer, si vous voulez, l'ampleur du phénomène, et donc nous avons commencé à donner des questionnaires aux élèves avant le cours sur la théorie de l'évolution et après le cours. C'était des questions très simples, ouvertes. On n'a aucune expérience théorique pour ce genre de choses, donc toute notre démarche est complètement empirique. Donc les questions qu'on leur posait, c'était est-ce qu'ils avaient, avant le cours, est-ce qu'ils avaient déjà entendu parler de la théorie de l'évolution? Quelle était leur source d'information? Est-ce qu'ils avaient des problèmes avec cette théorie? Et donc, ils répondaient. Et après le cours, nous leur demandions quelle était à nouveau leur position par rapport à la théorie. Est-ce que ça leur posait encore problème? Est-ce qu'ils avaient changé de positionnement? Et donc, ils devaient argumenter. En fonction des années, nous avons eu entre 30 à 50% d'élèves qui se déclaraient avoir des problèmes avec cette théorie de l'évolution pour, généralement, des positionnements religieux. Donc, il faut savoir qu'à Vaux-en-Velin, on a une majorité d'élèves qui sont issus de l'immigration. L'immigration, la religion qui représente massivement, c'est la religion musulmane. Donc face à ce constat, nous avons décidé plusieurs options de travail. D'abord, je vais vous présenter le plan. Donc on va voir les options de travail, les obstacles pré-scientifiques que l'on a identifiés pour qui gênent les élèves dans la compréhension de cette théorie, l'évolution des élèves par rapport à notre travail, donc le bilan des trois premières années, le travail que nous avons fait plus particulièrement cette année, car nous avons approfondi notre travail, et le bilan de cette année. Donc, les trois options de travail que nous avons choisies délibérément, premièrement, c'était de prendre en compte la résistance des élèves et de faire en sorte de la dépasser, de les aider à la dépasser. C'est un positionnement qui est décidé, car nous, on ne pouvait pas se contenter d'élèves qui avaient le cours, qui apprenaient le cours comme des perroquets savants, mais qui, en fait, n'y adhéraient pas. On estimait que si on laissait les élèves dans cette position-là, on laissait tomber notre mission éducative. Maintenant, il est vrai que c'est une décision que l'on prend, nous, en tant que professeurs. On sait qu'il y a d'autres professeurs qui pourraient très bien se contenter de faire leurs cours et ils s'arrêtent là. Deuxièmement, on a choisi comme option de donner des pistes de réflexion aux élèves pour qu'ils essayent eux-mêmes d'articuler le savoir scientifique que l'on leur transmet à l'école et leurs convictions religieuses. En sachant que cette articulation, évidemment, on ne peut pas la faire pour eux, mais au moins leur donner des pistes de réflexion. Et troisièmement, l'outil qui nous a paru le plus intéressant pour faire tout ça, et c'est les élèves qui nous ont conduits tout simplement par leur réaction, c'est une interdisciplinarité SVT philo, étant donné que le cours sur l'évolution arrive en cours de SVT, et qu'ils réagissaient en cours de philosophie. Donc tout naturellement, on a axé notre travail dans cette interdisciplinarité, qui permettait finalement de traiter d'un problème particulier par rapport à la théorie de l'évolution, qui ne pouvait être ni traitée complètement en cours de SVT, ni traitée complètement en cours de philosophie. Donc, ça, ce sont donc nos trois options de travail. Alors, les obstacles que l'on a identifiés au fur et à mesure des années et des réflexions avec les élèves. Le premier, c'est, on a dénommé ça une conception monolithique de la vérité. À savoir que lorsqu'on s'est rendu compte que lorsque les élèves arrivent en cours de SVT, ils arrivent déjà avec la tête pleine d'un pseudo-savoir sur l'homme, et ils considèrent que ce pseudo-savoir sur l'homme, donc qui leur est souvent désigné par un certain dogmatisme religieux, ne laisse de place à rien du tout. Ce qui fait que le cours de SVT peut bien se dérouler comme ils veulent, on peut leur dire ce qu'on veut sur l'homme, à savoir les connaissances biologiques, il n'y a plus de place. C'est comme s'il n'y avait plus de place. Donc le premier travail que l'on fait avec eux, c'était de leur montrer que sur un même objet, on peut avoir différents discours et qu'il n'y en a pas un qui en exclut un autre, mais au contraire qu'ils peuvent s'enrichir. Il est vrai que ce préjugé du « ou » et non pas du « et », du mode de pensée « c'est ça » ou « ça », plutôt de dire « c'est ça » et « ça », c'est quand même quelque chose de classique dans le fonctionnement des esprits, mais que ça conduit à une vue relativement simple du réel qui ne correspond pas à la conception qu'on peut avoir, par exemple, de l'homme, que l'on peut étudier sous différents aspects. Donc, le premier travail qu'on essaye de faire, c'est celui-là, d'amener les élèves à articuler, finalement, et à voir qu'il y a de la place pour différents modes d'accès à la réalité qui sont attestés par différents outils. Tout ça pour conduire à un enrichissement et non pas à l'exclusion de l'un par l'autre. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, qui va rejoindre le premier, vous allez voir, c'est l'animalité de l'homme, à savoir que les élèves nous disent « Oh, je ne suis pas un animal. » Bon. Ce qui ressort à travers cette affirmation, qui ressort souvent chez les élèves, d'ailleurs quel que soit le niveau, c'est que souvent les élèves réalisent une confusion entre le discours scientifique et le discours sur les valeurs. Par conséquent, dans l'esprit des élèves, ça a deux conséquences. C'est que s'ils considèrent que l'homme n'est pas un animal, c'est qu'il est donc extrait de la biosphère, on va dire, et que toute découverte scientifique qui peut être réalisée à travers l'étude de la biosphère ne concerne pas l'homme. Donc à ce moment-là, la théorie de l'évolution, ça marche très bien pour les plantes, mais pour la lignée humaine, ça marche pas, c'est pas possible. Et la deuxième conséquence, c'est que si l'homme est à nouveau extrait de la biosphère, ils peuvent considérer qu'il peut être le produit d'une perfection innée, ou qu'il est le résultat d'une évolution linéaire. En tout cas, dans les deux cas, ça gêne à une bonne compréhension de la théorie de l'évolution appliquée à la lignée humaine. Donc ce qu'on essaye de montrer aux élèves, c'est qu'il ne faut pas confondre tous les types de discours, que pour un même objet qui est l'homme, on peut avoir différents discours sur cet objet. L'homme, on peut avoir un discours biologique, on peut avoir un discours philosophique, on peut avoir un discours des valeurs, on peut avoir un discours religieux, et qu'il n'y en a pas un qui exclut l'autre, mais au contraire qu'il y a des enrichissements mutuels. Donc ça, c'est vraiment notre axe de travail, et qui reprend d'ailleurs le premier. Le troisième aspect qui bloque et qui est vraiment très très dur à travailler avec les élèves, c'est les différentes échelles de temps. À savoir que il y a des élèves qui nous font gentiment la réflexion suivante, c'est que leur grand-père n'est pas un singe. Je suis d'accord, le mien non plus. Mais qu'est-ce que ça montre, ce type de réflexion? Mis à part le fait qu'il y a vraiment une mauvaise compréhension de l'ancêtre commun, on sent que il y a une confusion dans l'esprit des élèves entre le temps vécu et le temps géologique. Naturellement, la conception du temps que l'on a, nous tous, c'est le temps vécu. C'est la journée, la minute, c'est le temps à l'échelle humaine. Or, pour bien comprendre l'évolution, et notamment de la lignée humaine, la partie lignée humaine, il faut être capable de faire une conceptualisation du temps qui est une échelle de temps géologique. Donc, il faut faire un travail avec les élèves pour au moins leur faire prendre conscience que là, il faut qu'ils fassent attention, qu'ils peuvent tomber dans un travers. Et effectivement, même en faisant tout ce travail-là, même en essayant de bien leur faire comprendre que le temps à l'échelle géologique est un temps conceptuel, il y a certains élèves encore qui ils le retiennent, donc ils nous le disent, mais ils n'arrivent pas à le conceptualiser. Hein. Ils n'arrivent pas à, ça les bloque encore dans la compréhension de la théorie. Le quatrième aspect, c'est le statut d'une théorie scientifique. Quand ils nous disent « la théorie de l'évolution, je n'y crois pas ». Alors, qu'est-ce qui se passe à travers cette affirmation? C'est que les élèves affirment que leur non-croyance à la théorie de l'évolution enlève finalement toute valeur et validité à celle-ci. Parce qu'ils n'y croient pas, de toute façon, elle est fausse, elle n'est pas vraie. Et en ça, ils supposent que finalement, les critères qui font de la vérité scientifique sont du même type que ceux de la foi. Donc ça, c'est vraiment une méconnaissance des méthodes qui conduisent à construire un savoir scientifique. Alors, cette méconnaissance, elle a malheureusement plusieurs origines, donc en partie, l'enseignement est responsable. La première chose, c'est la confusion entre le sens commun et le sens scientifique du terme de théorie. Dans le sens commun, ce qui est théorique, c'est hypothétique et c'est provisoire. Alors que le terme de théorie en science, cela n'a rien à voir. Ça, généralement, on ne prend pas toujours le temps de l'expliquer aux élèves. Et le fait que On parle toujours de théorie de l'évolution et non pas d'évolution. Pour certains élèves, c'est quand même problématique. Le deuxième aspect, c'est, et ça c'est lié donc au mode d'enseignement, c'est une méconnaissance du processus d'élaboration du savoir scientifique. Il est vrai que dans nos programmes d'enseignement, on ne fait pas d'épistémologie, on ne fait pas d'histoire des sciences, et que la science est enseignée de manière dogmatique. On vérifie évidemment comme on peut par des expériences, on leur propose des expériences, mais dans les programmes, on ne présente pas toutes les étapes qui ont permis d'élaborer et de construire un savoir scientifique, avec toutes les étapes de réfutation, de remise en question, etc. etc. Ce qui fait que les élèves, pour eux, le savoir scientifique, ils le mettent finalement au même plan qu'un savoir dogmatique. Ils ne voient pas toute l'élaboration qu'il y a derrière. Et enfin, le troisième point qui peut conduire à ce type de réflexion, c'est que tout simplement, effectivement, on est confronté de nos jours à des élèves qui ont un mode de pensée qui est relativement caractéristique, à savoir qu'un individu peut considérer que sa parole, sa pensée, a la même valeur que celle de ses parents, d'un professeur ou d'un scientifique. C'est-à-dire que si je pense ça, c'est aussi valable que ce que pense mon prof, sans voir tout ce qu'il peut y avoir derrière comme connaissance qui permet au professeur d'affirmer quelque chose plutôt qu'autre chose. Donc ça, c'est un obstacle majeur, car si les élèves restent, vissés sur ce mode de fonctionnement-là, tout simplement, il n'y a pas les explications scientifiques qui peuvent argumenter en faveur de la théorie de l'évolution, finalement, ne peuvent pas porter. Donc ça, c'est le quatrième point. Et enfin, le cinquième point, le finalisme. Alors, les élèves opposent la notion de hasard, sous-entendu dans leur esprit comme source de désordre, à la finalité adaptative que l'on observe sur le plan biologique. C'est-à-dire qu'ils oublient l'étape sélection naturelle, et comme ils voient qu'il y a une finalité adaptative, ils se disent « c'est pas possible que cette finalité adaptative, elle soit due uniquement à du hasard ». Et par conséquent, pour régler entre guillemets ce problème-là, ils mettent une finalité causale, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de hasard dans les mutations, mais que, entre guillemets, il y aurait déjà un pré-plan dans les mutations qui se traduirait ensuite en finalité adaptative. Donc cette confusion entre finalité adaptative et finalité causale est également un problème que l'on rencontre chez nos élèves. Donc voilà, ça c'est tout pour tous les obstacles pré-scientifiques que l'on a pu déterminer avec mon collègue par rapport auxquels nous élaborons un travail.
Voilà, et on cherche à les traiter de manière interdisciplinaire. C'est-à-dire que la plupart du temps, soit je viens dans ses cours, soit elle vient dans les miens. On essaie de réunir les élèves en amphi et on fait un cours à deux voix autour de ces questions. Voilà. Alors, ce qu'on a appelé planter des graines, c'était lié au bilan de trois années de ce travail interdisciplinaire, avec à chaque fois les questionnaires avant et après. Et donc, le bilan peut avoir l'air un peu, finalement, très banal, mais on va partir un petit peu de ça, en fait. Donc, ça fait 4 ans qu'on travaille. Cette quatrième année, on a travaillé différemment. Donc là, on va partir, en fait, pourquoi on a un petit peu changé du bilan qu'on a fait là. Donc, en fait, on avait certains élèves qui, eux, étaient en demande, en fait. On a des élèves qui viennent nous voir, qui nous disent, écoutez, on me dit quelque chose d'un côté. À l'école, on me dit autre chose. Comment je fais ? Ils ont l'impression que c'est contradictoire, donc ils sont en demande. Donc le travail qu'on a fait de manière interdisciplinaire leur suffit finalement. Ils arrivent à se dire, bon ben d'accord, on peut jouer, et ils font entre guillemets leur sauce, vous m'excuserez l'expression. Ensuite, il y en avait qui refusaient en début d'année, qui n'étaient pas en demande entre guillemets. Alors certains, eux, arrivent à voir que finalement il y avait un problème et qu'on peut dépasser la contradiction, et puis d'autres n'y arrivent plus du tout. Alors, au vu de ce bilan, ce sont des individualités qui nous ont fait un petit peu réagir, à partir desquelles on a commencé à travailler. Et notamment, il y a un élève qui nous a beaucoup marqué, qui était brillant en SVT. Et cet élève comprenait très bien tout ça, mais il nous a dit à la fin de l'année, écoutez, je ne peux pas. J'y arrive pas, je peux pas. Et donc, on s'est pris un petit peu ça dans la figure, et puis on s'est dit, finalement, le problème n'est pas qu'épistémologique, en fait. C'est-à-dire que tous les obstacles qu'on appelle pré-scientifiques, ou je dois vous avouer qu'au niveau de la dénomination, j'étais un peu embêté, on ne savait pas trop comment faire, finalement, pour l'aider, cet élève. Et puis on s'est dit, on doit avoir d'autres élèves qui sont dans ce cas-là. Donc, notre constat, ça a été que la perspective épistémologique était insuffisante et qu'il fallait travailler sur un autre plan. Il fallait aller un peu plus loin. Voilà, il fallait aller un petit peu plus loin. Donc on a mis en place cette année, on a profité de l'année Darwin, et on a mis en place, en complément de tout le travail interdisciplinaire qu'on continue à faire, on a mis en place des conférences. Et on s'est dit, en espérant que ça aille un petit peu plus loin. Ce cycle de conférences était organisé autour de trois grandes questions. Alors, la première, c'était qu'est-ce qu'une théorie scientifique ? On a voulu faire de l'épistémologie entre guillemets générale. Ensuite, en quoi la théorie de l'évolution est-elle bien une théorie scientifique ? Hein, qu'il ne puisse plus nous dire « ça c'est faux, mais ce n'est qu'une théorie », donc pour qu'il puisse bien être obligé d'accepter cette idée-là, que la théorie de l'évolution, elle est scientifique. Et puis le dernier thème, c'était science-religion, quoi. Enfin, comment faire pour articuler la science et la religion, et comment est-ce qu'on peut y arriver ? Alors, l'année ayant été ce qu'elle a été, c'est-à-dire qu'on a eu des blocus, on a eu beaucoup de choses, on a perdu pas mal de temps. Il faut dire que le dernier thème, il a été évacué. Et donc, on en est resté, finalement, à une perspective épistémologique. Alors que nous, on était uniquement orienté sur la fin, en fait. On voulait en arriver à la fin. Donc, on n'a pas pu. Et donc, entre guillemets, on en est resté à une perspective épistémologique. Donc, je vous ai donné les différentes personnes qui sont venues, qui nous ont fait l'amitié et l'honneur de venir. Donc Monsieur Léonard, qui est à la Maison de l'Orient de la Méditerranée sur Lyon, donc lui qui a traité de la théorie scientifique en général. Monsieur Clément, qui est ici présent, donc lui qui est venu nous faire un cours sur l'émergence, donc c'était intéressant. Monsieur Charla, qui est du CNRS à Lyon 1, est venu traiter de la finalité et comment la théorie d'évolution permettait d'en rendre compte, donc la finalité adaptative. Et on a eu Monsieur Lecointre, donc du Musée national d'histoire naturelle, qui est venu nous faire son intervention sur le périmètre des sciences et le créationnisme. Voilà. Donc tout ce qui a été fait là était complémentaire à ce que nous faisions déjà. C'est-à-dire qu'on ne demandait pas à ces personnes de remplacer notre cours, mais en fait de le compléter. Donc notamment la notion d'émergence, on la traite rarement. J'avais moi notamment fait un travail sur d'introduction à la théorie de l'évolution dans un cadre épistémologique, et j'avais laissé la finalité, j'avais dit ce sera traité en conférence, donc j'avais vraiment essayé de essayer de faire en sorte que ce soit complémentaire. Voilà. Alors nous avons fait un bilan dernièrement, il y a une ou deux semaines avec nos élèves, et là on a été très étonnés du bilan qu'on a pu faire. Alors je ne sais pas si je l'ai mis là. Oui, voilà. Et donc le bilan est le suivant. Beaucoup d'élèves ont été très intéressés par ce qui a été fait. Ce qui nous a été dit, c'est que, en fait, la parole des conférenciers a eu un impact. Parce que, et là je vous ai redonné une phrase d'une élève qui nous a dit qu'il n'avait pas d'intérêt à nous convaincre. Autrement dit, nous on avait un intérêt. Donc un intérêt, je ne sais pas, idéologique, on est des suppôts de l'Occident impérialiste, j'en sais rien, parce qu'il y a certains élèves qui me l'ont dit une fois. Et donc, nous, notre parole, elle est discréditée. On a un intérêt. Alors, c'est vrai, on a un intérêt, mais ça, finalement, ça empêche de faire passer l'enseignement. Et donc, ces personnes qui, elles, sont indépendantes et qui viennent faire état de leur recherche ou de leur travail ou de leur réflexion, eh bien, eux, ça passe. Ça passe, et les élèves, alors on a eu vent justement, les élèves se sont réunis entre eux, ils ont discuté, et ils se sont dit, bon, ben, faut qu'on arrête, quoi, et on est obligé de tenir compte de cette théorie, il faut impérativement qu'on arrête de s'arc-bouter de cette manière. Donc nous, ça nous a vraiment fait réfléchir sur tout ça, puisque finalement, nous, on est perçus comme des... Notre discours a un statut idéologique, il est perçu comme idéologique. Et les conférenciers, finalement, complètent notre discours et ils arrivent aux élèves à faire prendre de la distance. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, je dirais qu'ils ont une capacité d'accélération chez les élèves. On a certains élèves, donc, qui notamment a été interviewé par Pierre Clément, une de nos élèves qui désormais fait des études de biologie. On l'a revue cette année, ça fait 3 ans qu'on ne l'avait pas vue, et elle, c'était une élève qui était restée créationniste. Élève brillante, créationniste. Elle fait des études de bio, et là, maintenant, elle arrive à articuler. Donc, elle est devenue, entre guillemets, évolutionniste. Bon, il y a encore des petits problèmes sur les mutations, mais bon, elle est évolutionniste. Et elle nous a dit, on lui a dit, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et elle nous a dit, vous savez, quand j'étais en terminale, il m'était impossible de m'opposer à ma famille et à mon groupe, entre guillemets, à ma communauté et ma communauté de religion. Voilà. Alors que maintenant, elle est capable de batailler avec ses parents et avec l'imam qu'elle va voir régulièrement à la mosquée. Donc elle lui dit, non, c'est pas bon, tu dis n'importe quoi sur la théorie de l'évolution, c'est pas ça. Donc elle a véritablement fait un cheminement et elle nous a dit, c'est très bien ce que vous faites, faites-le, mais sur le moment, on est incapable de faire le... de basculer, entre guillemets. Et donc, c'est pour ça que j'avais juste dit auparavant qu'on plante des graines. En fait, l'idée, c'était ça, c'est que finalement, on plantait des graines. Et on s'aperçoit qu'on peut planter des graines, mais finalement, il y a un engrais, c'est les conférenciers. Et ça permet finalement de faire un travail bien plus rapide sur tout ça. Donc notamment, même un élève redoublant qui était extrêmement... Qui n'arrivait pas à accepter tout ça, qui n'arrivait pas à accepter la théorie de l'évolution. On a eu des discussions assez échevelées. J'ai eu droit à mes petits fascicules de Harun Yahya et tout ça. Et lui-même avait dit, bon, bah, d'accord, oui, va falloir qu'on fasse faut qu'on fasse un travail, il faut qu'on accepte ces théories, il faut qu'on voit comment on va faire. Donc c'était tout à fait intéressant à ce niveau-là. Alors, en conclusion, on va réitérer l'expérience. Donc désormais, on va travailler avec des conférenciers qui vont justement nous aider à... et qui vont aider surtout nos élèves à faire ce travail, c'est-à-dire d'accepter l'enseignement scientifique pour ce qu'il est, et ne pas simplement le mettre à part. Et en fait, on est conscient, en fait, au vu de tout ce qu'on a, pu apprendre cette année, que tout ça, ça reste, c'est vrai, empirique. On a un peu bricolé comme on a pu. Et on est conscient désormais qu'il faudrait qu'on aille un petit peu plus loin sur le plan théorique, peut-être. Notamment pour la confection de nos questionnaires, tout ça, voilà. Donc on est conscient de tout ça. Mais ce qui nous semble vraiment très intéressant pour nous, là, par rapport à ce qui a été fait, c'est la réflexion que ça nous amène à avoir sur notre propre enseignement. Donc déjà, je pense qu'il faut insister sur l'interdisciplinarité. C'est fondamental. S'il y a eu un colloque cette année, en novembre dernier, sur la théorie de l'évolution, et qui a été un colloque SVT philosophie, c'est bien qu'on a quelque chose à faire ensemble, quoi. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment très important. Et d'ailleurs, il faut qu'on élargisse... c'est encore l'idée de missionnaire, peut-être. Il faut qu'on élargisse le... La question, d'ailleurs, l'interdisciplinarité, elle est très intéressante pour SVT philosophie. Je dirais même, d'ailleurs, moi, pour toutes les matières, hein, je vais dans quasiment toutes les matières du lycée, mais c'est intéressant pour SVT philosophie quand on traite de la procréation médicalement assistée, toutes les questions de bioéthique et tout ça. En fait, on ne parle pas que de théorie de l'évolution, et le discours à deux voix est très intéressant à ce niveau-là. Ensuite, la réflexion que ça nous amène à avoir, c'est justement par rapport à ce qui s'est passé avec les conférenciers et à notre statut vu comme idéologique, en fait. Et là, je crois qu'on a beaucoup, beaucoup à faire. Mais là, je dois vous avouer que, bon, on s'est pris ça dans la figure la semaine dernière. Donc maintenant, il va falloir qu'on réfléchisse à ces questions. Et si vous avez des éléments à nous donner, on est preneurs pour qu'on puisse justement travailler sur ces questions. Voilà. Et pour finir, je voudrais inscrire tout ça dans un cadre laïque, en fait. Puisque je pense que, véritablement, ce travail-là s'inscrit dans ce cadre-là. Et je pense qu'il est justifié par la laïcité, en fait. Puisqu'on essaie de ne pas mettre sur le même plan croyances religieuses et savoir scientifique. Et on considère, en lien avec cela, que l'enseignement scientifique, eh bien, justement, permet aux élèves et permet à l'enseignant, justement, de promouvoir l'universel, en fait. La laïcité, c'est pas uniquement empêcher, finalement, que la religion ou que toute posture spirituelle puisse s'exprimer, ou même s'immiscer en cours. C'est pas que ça, la laïcité, elle n'est pas que négative, elle est aussi positive, elle promeut des valeurs, et des valeurs de l'universel. Et donc, l'enseignement scientifique est un des moyens de promouvoir cet universel. Et donc, nous pensons, et c'est ce qui justifie, je pense, notre position du départ, en fait, on pense qu'on ne peut pas se satisfaire d'élèves qui diraient « bon, ben voilà, je vous dis ce que vous voulez, mais en dehors du lycée, tout ça, ce ne sont que des fadaises ». Voilà. Mais, bien sûr, dans le même temps, nous considérons comme très important de respecter ce que nous disent les élèves et leurs propres croyances. Et on n'est pas là pour leur dire « vous croyez mal ou vous ne devriez pas croire ». Et c'est là où c'est difficile finalement à articuler, mais c'est notre idée, c'est de respecter la croyance des élèves, et notamment on a fait très attention à ce qu'il n'y ait pas de posture scientiste qui s'affirme, notamment du fait des conférenciers. Je dois vous avouer qu'on a dû faire une sélection, parce que on avait des personnes qui s'affirmaient de manière trop péremptoire, en disant oh, pff, écoutez, tout ça, la religion, bon, c'est bien marrant, mais il suffit de bien leur expliquer, puis ça va bien se passer. Ben, finalement, c'est pas si simple. Voilà. Donc voilà, j'insiste sur l'idée que tout ça s'inscrit bien dans la laïcité, dans le cadre de notre enseignement laïque, quoi. Voilà.